Vous êtes sur RTL.
Et sur RTL à 6h, le journal, c'est avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Le procès du harcèlement et du mal-être en entreprise.
6 anciens dirigeants de France Télécom, dont l'ex-PDG, sont jugés à partir d'aujourd'hui. La justice devra dire s'ils sont responsables de la vague de suicides qui avait frappé le groupe en pleine transformation il y a 10 ans. L'alerte enlèvement a porté ses fruits. Le petit garçon de 2 ans enlevé hier après-midi à Marseille a été retrouvé dans la soirée dans la Drôme. Un cessez-le-feu à Gaza après un week-end particulièrement meurtrier, au moins 27 morts. Et puis le foot, Lyon fait match nul de partout face à Lille et devra se battre jusqu'au bout pour conserver la 3e place de la Ligue 1.
Deux fois le temps d'ici 6h30.
Le soleil dominera toute la journée à Bellac en Haute-Vienne. Il y est prévu 17 degrés cet après-midi.
RTL Matin.
C'est l'affaire qui a changé notre regard sur le mal-être en entreprise.
Le procès des suicides chez France Télécom s'ouvre aujourd'hui et pour 2 mois devant le tribunal correctionnel de Paris. Le groupe devenu depuis Orange est apparu comme un cas emblématique. L'enquête qui a abouti au renvoi de 6 dirigeants, dont l'ex-PDG Didier Lombard, a examiné le cas de 39 salariés, 19 suicides, 12 tentatives, 8 dépressions ou arrêts de travail. Yves Minguy, aujourd'hui retraité, se définit comme un rescapé. Il décrit un système dans lequel la pression se retrouvait à tous les échelons. Il a subi, lui, une mutation et son propre supérieur s'est donné la mort.
Je me suis retrouvé au placard. La personne qui m'a fait ça s'est suicidée 3 mois après. Bon, voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et puis après, c'est de la dépression. Moi, si j'avais pas eu mon épouse pour me soutenir, je serais plus là. Je serais comme les autres, je serais plus là. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on se sent fautif. Le système est tellement bien mis en place, on n'est plus rien. Vous n'existez plus. Et après, c'est la descente aux enfers. Hein. Le problème, c'est que dans le privé, on fait un plan social, on licencie, etc. Mais nous, les fonctionnaires, vous ne pouvez pas nous licencier, on ne peut pas faire du plan social. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vous pousse jusqu'à temps que vous tombiez dehors, c'est tout. Hein. Vous vous retrouvez au placard, quoi, c'est clair.
Comment est-ce que vous abordez ce procès? On a compris que ça faisait ressurgir des souvenirs forcément compliqués.
Moi, je dis toujours, une cicatrice, des années après, elle est toujours là. On n'y touche pas, elle ne fait rien. Si on la gratte, elle fait mal. Ça va pas être simple. Ce que je voudrais, c'est qu'on nous dise on a fait une connerie. Mais bon, est-ce que ça sent ça? J'en sais rien. Hein. Vu la tendance, c'est le déni. Hein. Je vous l'ai bien dit, hein. C'est du déni absolu. Hein.
Yves Minguy, ancien de France Télécom, témoignage recueilli pour RTL par Alice Moreno qui va donc suivre ce procès prévu pour durer jusqu'au 12 juillet prochain. Changement de méthode. Après avoir contourné les partenaires sociaux depuis le début du quinquennat, l'exécutif renoue avec les syndicats mais aussi avec les associations d'élus. Début des consultations aujourd'hui. Édouard Philippe les reçoit à partir de 9h30 à Matignon.
Et notamment François Baroin, le président de l'Association des maires de France qui sera l'invité d'Elisabeth Martichoux à 7h45.
Image très impressionnante et lourd bilan après un accident d'avion à Moscou hier, au moins 41 morts. Un appareil de la compagnie Aeroflot a fait un atterrissage d'urgence. Il a pris feu après le décollage. Sur les vidéos prises par des témoins, on voit l'avion se poser avec près de la moitié de la carlingue en feu, l'arrière. Les 37 passagers situés à l'avant ont survécu.
RTL 6h03, on en vient à cette alerte enlèvement. Une fois de plus, le dispositif s'est révélé efficace.
Lancée en milieu de soirée, elle concernait un enfant de 2 ans enlevé à Marseille. Bonjour Charlotte Baris.
Bonjour.
Il a été retrouvé sain et sauf un peu plus tard.
Oui, il a été retrouvé à plus de 200 km de Marseille, là où il avait disparu hier vers 12h40. À ce moment-là, sa mère assiste à un office religieux sur la Canebière, en centre-ville. L'enfant de 2 ans échappe alors à sa vigilance et se retrouve dehors. C'est là qu'il est enlevé. Il est aperçu par les images de vidéosurveillance avec un homme d'une quarantaine d'années. Les enquêteurs perdent leur trace à 15h à la gare Saint-Charles de Marseille. L'alerte enlèvement est déclenchée vers 23h et c'est à Valence, dans la Drôme, que le veilleur de nuit d'un hôtel voit le signalement à la télévision. Immédiatement, il appelle la police. L'enfant est retrouvé vivant avec l'homme qui l'a enlevé. Selon le procureur de la République de Marseille, le garçon va bien. L'auteur de l'enlèvement a lui été placé en garde à vue. Il a des antécédents judiciaires et c'est la 23e fois depuis 2006 que l'alerte enlèvement est utilisée en France. Elle n'a été levée que 2 fois avant que les enfants ne soient retrouvés sains et saufs quelques semaines plus tard.
Charlotte Baris, merci. 7 pompiers ont été placés en garde à vue à Paris, soupçonnés de viol collectif. Les faits se seraient produits dans la nuit de samedi à dimanche. Ils avaient ramené à leur caserne 3 jeunes femmes, des touristes européennes rencontrées en dehors de leurs heures de service dans un bar du 14e arrondissement. C'est l'une d'elles qui a porté plainte. Les 7 pompiers sont suspendus à titre conservatoire.
L'hypothèse d'un enlèvement de 2 Français se renforce au Bénin.
C'est bien le corps de leur guide qui a été retrouvé samedi dans un parc national de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Jusque-là, épargnés par l'insécurité. On en a eu la confirmation hier soir. Les autorités craignent que les deux enseignants français disparus depuis mercredi aient été emmenés vers le Mali où sévissent les groupes djihadistes habitués des prises d'otages. Les Palestiniens acceptent un cessez-le-feu à Gaza. C'est ce qu'indiquent ce matin le Hamas et le djihad islamique. Les violences de ces derniers jours ont fait au moins 27 morts, 23 dans leur rang, 4 côté israélien. Cette brusque montée de la tension était prévisible. Mathias Somme, vous êtes pour RTL dans la région. Il y a plusieurs raisons à cela.
La première raison, c'est d'abord la tenue de l'Eurovision le 18 mai prochain. Alors qu'Israël s'apprête à recevoir les délégations du monde entier pour le concours, le Hamas et le djihad islamique, principaux groupes armés de la bande, voient une occasion de faire pression sur leurs voisins. Leurs dirigeants laissent même entendre que leurs roquettes pourraient atteindre Tel Aviv. Il y a aussi quelques jours plus tôt la fête d'indépendance d'Israël. Le 15 mai, le pays fêtera ses 71 ans, un jour de fête pour les Israéliens, mais les Palestiniens appellent ce jour la Nakba, littéralement la catastrophe. Il y a également la question de l'aide humanitaire et financière envoyée par le Qatar dans la bande de Gaza. Habituellement autorisée, cette aide pourtant fondamentale pour payer les fonctionnaires de la bande a été limitée par le gouvernement israélien en réponse à des tirs de roquettes par le passé. Le Hamas demande d'assouplissement des mesures. Dernière raison, le Ramadan qui commence, c'est traditionnellement un moment de tension entre Israéliens et Palestiniens.
Merci Mathias Somme. Et effectivement, le Ramadan débute ce lundi. Dans ce contexte, sans faire directement le lien avec les tensions de ce week-end, les États-Unis annoncent cette nuit l'envoi d'un porte-avions et d'un groupe de bombardiers au large de l'Iran.
Tiens, justement, un rendez-vous ce matin sur RTL. Gérard Haro, grand diplomate français qui vient de quitter ses fonctions d'ambassadeur de France aux États-Unis, sera l'invité tout à l'heure d'Yves Calvi à 8h20. Allez, on passe au foot maintenant à 6h07. Décidément, cette fin de saison, elle est laborieuse pour Lyon.
Match nul de partout hier soir à domicile face au deuxième de la Ligue 1, Lille. L'OL a dû se battre pour revenir au score et arracher un point. Anthony Lopez, le gardien lyonnais, admet que son équipe s'est encore compliqué la tâche.
Ce match-là résume totalement notre saison. On avait d'autres ambitions à travers cette rencontre, de gagner ce match, de prendre les 3 points pour mettre la pression sur lui jusqu'au bout. Voilà, on est parti chercher le point du match nul sur la fin de match. Donc voilà, on reste 3e. On a encore notre destin entre nos mains pour assurer cette 3e place. Mais voilà, ça va jouer jusqu'au bout et il va falloir faire carton plein pour assurer une 3e place.
Anthony Lopez avec Nicolas Georgerot. Les Lyonnais n'ont plus qu'un point d'avance sur Saint-Etienne dans ce match pour la 3e place. Saint-Etienne qui est allé battre Monaco 3-2. Les autres résultats d'hier, 1-1 entre Montpellier et Amiens, 3-0 pour Nantes face à Dijon et 2-2 entre Toulouse et Rennes.
Allez, on part pour le Royaume-Uni où l'on attend toujours l'arrivée du bébé, du prince Harry et de Meghan Markle.
Et oui, toujours rien. Les Anglais s'inquiètent, d'autant que Meghan a fait un choix controversé là-bas. Elle souhaite accoucher chez elle et non en milieu hospitalier. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL. C'est un débat comme pour tout ce qui concerne la famille royale qui est très animé.
On reproche à Meghan Markle de ne pas vouloir faire comme Kate et comme Diana. Sa belle-sœur et sa défunte belle-mère ont toutes deux accouché à la maternité privée de l'hôpital Sainte-Marie à Londres. Alors Meghan en fait-elle trop à sa tête en voulant apparemment accoucher à la maison? Certains le voient comme ça, ou alors peut-être suit-elle l'exemple de Sa Majesté la Reine, qui a eu ses 4 enfants chez elle. Mais ça n'empêche pas certains de s'inquiéter, et notamment Joe Little, spécialiste des têtes couronnées.
Est-ce vraiment raisonnable pour une femme de plus de 35 ans d'accoucher à la maison, même avec une armée de médecins autour de soi?
Et justement, les fans se font du mourant.
Je m'inquiète, oui. Ce serait mieux que le bébé naisse à l'hôpital, parce que tout est à portée de main. C'est plus sûr. Et puis ça aurait été mieux qu'elle accepte les docteurs de la reine, parce qu'ils ont de l'expérience.
Meghan préférerait, dit-on, une doula, un peu comme une sage-femme au gynéco de Sa Majesté. Mais si jamais elle accouche chez elle et qu'il y a un problème, la police sera là pour escorter la duchesse vers un hôpital qui a certainement déjà été sélectionné et informé.
Merci Marie Billon à Londres pour RTL.
Tout un débat. Merci beaucoup Jérôme. À tout à l'heure à 7h avec Yves Calvi. Le temps, Marine.